France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Bienvenue en Bretagne à nouveau, puisque nous y revenons cette semaine avec une série d'initiatives et de solutions de vie dans le Finistère. Justement, des solutions à la désertification médicale de certains territoires sont en gestation en Bretagne avec la faculté de médecine de Rennes qui organise des séances de formation des étudiants afin de plancher sur des projets de santé. On en parlera tout à l'heure avec Laure Fiquet, médecin généraliste. Mais tout d'abord, une jeune entreprise. Attention, ouvrez vos oreilles et montez le volume qui va ravir les guitaristes pour ses créations uniques.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Olivier Furiga, bonjour.
Bonjour.
J'aime bien votre nom parce qu'on pourrait faire un slogan. Furiga, avec le Rock'n'Fan Factory. Alors, il faut expliquer, vous êtes guitariste et vous avez imaginé un jour de créer votre propre pédale d'effet de guitare. Et en partant d'une boîte de pâté, alors on cite, hein, c'est la marque locale, Enaf.
Oui, absolument.
Ouais. Et pourquoi cette envie de changer de boîtier ?
Tout simplement parce que tous les musiciens, tous les guitaristes sont plutôt gros consommateurs en fait, de matériel. Hein, des grands enfants dans un magasin de jouets quand ils rentrent dans des magasins de musique. Et il s'avère que c'est une passion qui coûte très cher. Puis les produits sont plutôt très standardisés en fait. Donc l'idée de départ, ça a été de dire on va proposer quelque chose avec une image plus locale, plus ludique aussi, puisqu'effectivement c'est pas classique de trouver des pédales d'effet dans des boîtes de pâté et naf. Et ça a commencé comme toute histoire, hein, dans le garage, hein, à travailler sur des concepts, à bosser l'électronique, à faire en sorte que le produit soit ergonomique, etc. Et puis un jour, la décision a été prise de se lancer. Et donc, j'ai notamment pris contact avec Enaf pour pouvoir signer un contrat de partenariat et d'exclusivité avec eux.
Et ils ont accepté ?
Oui, ils ont accepté. La musique n'est pas un créneau sur lequel ils sont forcément implantés. Hein. On les a vus dans l'espace, mais on les voit aux vieilles charrues en termes de festivals locaux.
Oui.
Mais ils sont, c'est pas forcément une stratégie qu'ils voulaient mettre en avant. Et puis, on n'est pas non plus une entreprise multinationale qui va user et abuser de leur image. Donc, ils nous ont donné notre chance. Ça fonctionne plutôt très bien.
Mmh. Rock'n'Fan Factory décolle véritablement en mai 2017.
C'est ça. Alors, il y a une première ouverture qui se fait en mai 2017 où j'étais en tant qu'auto-entrepreneur en fait parce qu'on commence à avoir quelques commandes. On aime bien faire en sorte que les choses soient bordées d'un point de vue légal tout simplement, les garanties, paiement des taxes diverses et variées. Et puis les événements de la vie font que je me suis retrouvé à pouvoir pratiquer cette activité à temps complet et à en faire venir une entreprise un peu plus importante. Et aujourd'hui, c'est vraiment une activité pleine, quoi, tout simplement. On a un atelier sur Brest, on a des commandes qui sont régulières. Voilà, c'est un marché de niche, évidemment. Il y a un paquet de monde qui nous suit sur Facebook. Et puis ça parle beaucoup, puisque comme ce sont des produits qui sont plutôt ludiques et différents, une très bonne image, en fait. Ouais.
Or, le principe, Olivier, c'est que des musiciens vous sollicitent en disant « Moi, j'ai un objet, j'aimerais bien l'utiliser en boîtier de pédale d'effet. » Exemple, ça peut être un transformateur de train électrique des années 60, comme j'ai vu. Un autre a un compteur avec un magnifique bloc avec un vue-mètre à l'ancienne. Il est magnifique et vous le transformez. Donc, vous faites ça sur mesure. On vous envoie ou on vient à l'atelier pour faire sur mesure la pédale ?
Alors, les deux. La philosophie de base de Rock'n'Fan Factory, c'est de faire en sorte que chaque pédale puisse ressembler à son musicien et que ces pédales soient uniques. Donc, quelqu'un qui viendrait avec un voltmètre, un transformateur de train ou une voiture en modèle à 24e, hein, on a lu là, nous, il n'y a pas de souci. On transforme, on intègre l'électronique à l'intérieur et le consommateur repart avec sa pédale. Après, à côté de ça, on est aussi régulièrement à dénicher des objets qui peuvent avoir un peu d'âme, un peu de vie. Et puis, on met ça régulièrement sur les différents sites de vente. Là, c'est clairement de la conception qui est faite avec ce qu'on pense être bien. Voilà.
Et vous vous attaquez à un sacré marché, parce que il y a de la concurrence, mais vous arrivez à vendre des pièces customisées jusqu'aux États-Unis.
C'est ça. On a fait les États-Unis, les DOM-TOM, pas mal de pays en Europe. La visibilité, ça se travaille. Hein. C'est pour toute entreprise, même locale, on n'a pas le choix que d'être actif et dynamique sur les réseaux sociaux, sur les sites marchands. plus on envoie des pédales loin, plus on a de la chance d'ouvrir des marchés nouveaux. Donc, on travaille beaucoup, en fait, pour pouvoir se faire voir le plus loin possible.
Ouais. Les boîtiers ont une incidence sur les effets eux-mêmes ?
Pour certains, oui. C'est-à-dire que on a clairement des problèmes. Des fois, on pourrait capter la radio et France Inter. D'accord. Brancher dans un ampli, ça peut arriver. Évidemment, on a des boîtiers qui sont censés être isolés, etc. Je dirais qu'il peut y avoir sur une série, je pense notamment aux transports de train qui sont en plastique, on peut avoir des séries qui sont peut-être avec un peu plus de souffle. Alors, je m'adresse plutôt au musicien qui a besoin d'avoir un son extrêmement transparent. On peut avoir des notions de souffle.
Elles sont drôles, elles sont magnifiques, elles sont uniques dans leur genre. Elles relèvent de cette entreprise créée par Olivier, Rock and Fan Factory. L'adresse est rockandfanfactory.fr. Il y a aussi une page Facebook. Merci Olivier.
Merci beaucoup Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Nous avons appris récemment par un sondage paru dans la presse régionale que 68% des habitants de la région Bretagne et 63% du département de Loire-Atlantique étaient favorables à l'organisation d'une consultation sur la réunification des deux. Par ailleurs, 61% des sondés se déclarent également favorables à la fusion des conseils départementaux et du conseil régional. Réunification et assemblée reviennent donc sur la table. Je serais curieux de connaître l'avis aussi des élus des conseils départementaux. Yann, correspondant des Cardets, nous donne des nouvelles de Coquelicot, C-O-C-L-I-2-C-O. Coquelicot est une jeune association de producteurs locaux de Welgoat qui réalise des paniers commandés en ligne par les consommateurs. Pour l'instant, il y a un hangar communal qui permet de stocker les paniers avant distribution chaque vendredi après-midi. La prochaine étape sera l'ouverture d'une épicerie associative couplée à un bar associatif. La particularité de ces projets, selon Yann, repose sur l'autogestion. Il n'y a pas d'aide extérieure et pas d'emprunt bancaire afin, je cite, d'éviter les pièges du financement classique. On souhaite bonne chance à cet équipage mixte de producteurs et consommateurs. L'ironie du sort est que Coquelicot, avec la même orthographe, est aussi le nom d'une plateforme de consultation des usagers et consommateurs des centres commerciaux. Vous allez avoir la bonne adresse à nos pages d'émission pour éviter la confusion. Laure Fiquet, bonjour.
Bonjour.
Cher docteur. Docteur généraliste à Breteil et maître de conférence en médecine générale à Rennes, avec un projet qui nous intéresse bien. Alors, c'est clair, tout le monde s'arrache les cheveux dans les régions et surtout les milieux ruraux, avec le problème de la santé, du renouvellement des professionnels de la santé ou du médico-social. On trouve très peu de candidats. Vous allez y arriver.
Alors, on espère en tout cas y arriver. En tout cas, on se démène pour permettre à des jeunes futurs professionnels de santé d'aller découvrir l'exercice sur un territoire rural.
La faculté de médecine de Rennes donc a organisé en mars dernier une première formation interprofessionnelle avec 110 étudiants de 10 professions de la santé ou du médico-social. À quel niveau d'études était-il à ce moment-là ?
Alors en fait, en fonction des professions, ils vont être diplômés en même temps. Donc on regroupe à la fois, je ne vais pas tous les citer, mais des ergothérapeutes, des infirmiers, des diététiciens. Donc ils sont à un an de leur diplôme. Donc c'est des internes par exemple de médecine générale et c'est des étudiants en école de kiné qui sont en troisième année la plupart du temps.
Alors vous les préparez en quelque sorte à travailler ensemble ?
Exactement. En fait, depuis 2009, à l'initiative d'une infirmière qui s'appelle Françoise Anezo, qui s'est aperçue que, en fait, c'était difficile de faire travailler ensemble des infirmiers et des médecins sur les territoires, et elle s'est dit il faut former les gens pour qu'ils soient préparés à exercer ensemble. Et donc a été mis en place cette formation interprofessionnelle. On les faisait réfléchir d'abord sur se connaître, se rencontrer, ensuite travailler ensemble sur des thématiques communes et enfin travailler sur la construction d'un projet de santé. Et cette année, on s'est dit que c'était important non seulement de construire un projet de santé, mais aussi de le construire sur un territoire et d'aller découvrir le territoire. Et on a choisi parce que moi, j'avais des liens avec un pays du centre-ouest Bretagne de travailler sur cette zone rurale.
Ouais. Vous tentez de leur faire comprendre que l'exercice en milieu rural peut être professionnellement enrichissant. On dit pas ça tous les jours, hein.
Eh ben, si, c'est en fait déconstruire un peu les représentations qu'ils peuvent avoir du monde rural, à la fois découvrir des territoires dynamiques où il se passe plein de choses avec une qualité de vie, et puis donc rencontrer des élus et aussi des professionnels de santé, et ils sont ravis d'exercer là. Ça correspond à un exercice très enrichissant sur le plan professionnel. Donc c'était leur permettre d'aller à la rencontre de ceux qui aujourd'hui exercent en milieu rural et ont envie aussi de faire partager cet exercice à des futurs professionnels de santé.
Ouais. Donc ça destine ces futurs praticiens à exercer dans une maison de santé?
Ben, en tout cas, c'est l'idée, en fait, quand on les fait réfléchir sur un projet de santé, c'est un peu la première étape qu'on demande à des professionnels en exercice pour après développer une maison de santé. Et donc, nous, on les fait travailler sur comment ils voudraient organiser leur travail pour permettre de donner des soins de qualité aux gens du territoire.
L'erreur dans ce désert médical que l'on dénonce régulièrement, milieu rural, Laure, ça a été de vouloir poursuivre des activités libérales, des praticiens en cabinet seuls.
Aujourd'hui, les jeunes professionnels, enfin en tout cas une partie d'entre eux, ils ont envie de travailler en interprofessionnalité, c'est-à-dire à plusieurs, en réfléchissant ensemble, en se formant ensemble, on peut améliorer la qualité des soins. Et je pense que c'est vraiment là-dessus, en tout cas, qu'on peut imaginer rendre attractifs les territoires ruraux, là où il y a des structures qui fonctionnent, à condition qu'elles puissent être connues par les futurs professionnels de santé.
Belle expérience et bravo pour avoir l'audace de porter ce projet de santé avec les étudiants au sein d'une zone défavorisée pour leur future installation, hypothétique installation. Mais c'est probable qu'après cette expérience, il y ait effectivement une concrétisation de la création de regroupements de jeunes médecins et praticiens dans des maisons de santé. Alors vous allez trouver le lien avec cette démarche à l'université de Rennes 1. Et puis, si vous voulez entrer en contact avec Laure, il n'y a aucun souci, on pourra vous donner son adresse électronique. Merci Laure.
Merci beaucoup.
Avant de rejoindre Nicolas Stoufflet, quelques mots sur les destinations du mois d'octobre. Je vous ai annoncé l'Aveyron, le Tarn et Garonne. J'y ajoute la Somme, l'Oise et le Val d'Oise. Merci pour vos messages depuis ces départements. Donc dans le Finistère, Ploumoguer, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1 000 euros.